Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci surtout à Francesca Trivelato de nous rendre visite. C'est un plaisir et un honneur pour nous de l'accueillir. Francesca Trivelato est professeure à Yale. Elle nous revient d'un long voyage, puisque c'est par l'Australie, en fait, qu'elle arrive en France pour une tournée, pourrions-nous dire, une tournée qui profite et de cette invitation au Collège de France, à une invitation hier à l'Institut d'études politiques de Paris. Après-demain, elle sera à Blois, dont le thème « Partir » convient admirablement à sa spécialité et à l'invitation de Guillaume Calafa, qui est son traducteur de luxe, que je remercie pour le travail dont je vais parler dans un instant. Elle participera donc samedi à 16h30 à une table ronde sur les diasporas. Et ensuite, mardi 18, à Paris 1, à l'invitation de Wolfgang Kaiser, participera aussi à ce grand travail sur la Méditerranée et les circulations, le commerce interculturel dont Francesca Trivelato est l'historienne éminente. Je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte pour vous parler de ce que Roger Chartier organise depuis l'année dernière, c'est-à-dire une web radio qui s'appelle Débat d'histoire, que l'on peut donc entendre sur le site du Collège de France. Et hier, je crois, ou avant-hier, il a ouvert son micro à Francesca Trivelato pour parler donc de la traduction de ce livre, Corail contre Diamant, de la Méditerranée à l'océan Indien au XVIIIe siècle, aux éditions du Seuil, qui était paru originellement en 2009, qui a donc été traduit par Guillaume Calafa, préfacé par Romain Bertrand, et qui est un livre marquant pour nous parce qu'il décrit au fond ce que peut être, je dirais, un lien de confiance à longue distance avec cette question du commerce interculturel et ce rapport entre le statut et le contrat qui est au cœur de ce dont on va parler aujourd'hui. Francesca Trivelato, donc, est en une sorte, avec un léger différé en France aussi, pour présenter la traduction de ce livre. Ce n'était assurément pas son premier livre. Elle a commencé, après ses études à Venise, puis à Milan, à travailler sur les verriers de Murano notamment, et à travers cette histoire concrète, cette histoire du monde du travail. Nous évoquions ensemble l'immense œuvre de cette grande historienne Christiane Clapiche-Zuber, qui vient d'ailleurs d'obtenir le prix de la Dame à la Licorne pour un livre dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « Le voleur de paradis » et qui a commencé aussi à travailler d'abord sur ces questions de travail et justement de rapport entre les communautés professionnelles et la circulation de la confiance. Et justement, c'est pour nous entretenir aussi à la fois de cette question-là, d'une question qui a, vous allez le voir, l'archive au cœur de ses préoccupations, puisque dans cette collection qui s'appelle « L'univers historique au seuil », il nous a paru tant important de traduire en français le travail de Francesca Trivelato, c'est parce que précisément elle tente et elle réussit une histoire globale située, une histoire globale et locale, une histoire qui réconcilie la microstoria et la world history, et qui, d'une certaine manière, prend aussi la question de la ressource documentaire au cœur de ses préoccupations. C'était dans ce livre, Les 13 000 lettres de la compagnie juive de Livourne, et c'est aujourd'hui, pour une plateforme numérique, les 5 000 et quelques lettres de contrat en commandite passées à Florence pour une longue durée du 15e au 19e siècle. Mais ce dont elle va nous entretenir aujourd'hui, c'est et c'est une chance pour nous, et je l'en remercie, c'est d'un projet en cours sous le nom Le lien de crédit, droit, communauté et marché sous l'ancien régime. Ce dont il est question, c'est justement de cette question justement de longue durée et de grande ampleur qui, à travers la question du crédit, met en jeu, au fond, ce que pourrait être une économie d'ancien régime. Mais elle le fait à partir de l'enquête qui va donner lieu à son prochain livre, qui part d'abord, je dirais, d'une enquête destructive, tout part d'une légende tenace dont elle montre qu'elle naît en France au XVIIe siècle. Elle va montrer, c'est celle des origines juives des lettres de change et des assurances maritimes. Et à partir de là, c'est le rapport entre le crédit et le monde juif, mais aussi dans ses pratiques comme dans ses représentations, qui est questionné par cette historienne. Avant de lui donner la parole, je dois faire le geste protocolaire qui consiste à lui offrir, au nom de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, la médaille qui donc marque son invitation. Vous ne vous plaignez pas du fait qu'elle ne soit pas ressemblante avec les traits augustes de Guillaume Calafat. En réalité, c'est Guillaume Budet qui est frappé sur cette...
On va partager.
Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et je vous cède bien volontiers la parole.
Merci beaucoup à Patrick Boucheron pour l'invitation aujourd'hui qui m'est fait un très grand honneur et aussi pour avoir accueilli au seuil la traduction de mon livre Corail contre Diamant. Et bien sûr, merci à Guillaume Calafat qui, comme vous l'avez vu, on traduit ça, c'est pas exactement un livre de poche. C'était un travail extraordinaire et finalement, merci à tous les amis, les collègues, tout le monde qui est ici cet après-midi. Et vous pouvez m'entendre ?
Oui.
Pourquoi étudier les crédits sous l'Ancien Régime ? L'expression même pour laquelle nous nous référons aux deux siècles qui précèdent la Révolution française, l'Ancien Régime, a quelque chose d'un peu vieillot, qui rend parfois cette période historique peu attirante lorsqu'on la compare, par exemple, à la fascination que peut exercer le Moyen-Âge ou l'intérêt manifeste des phénomènes historiques plus récents, tels que l'impérialisme, les génocides ou les luttes postcoloniales. Nous vivons aujourd'hui à une époque où l'on peine à retrouver les promesses de progrès formulées par la Lumière. La conquête du suffrage universel s'est parallèlement accompagné de la montée en flèche des nouveaux populismes. En guise de sécularisation, nous nous trouvons en face à une nouvelle vague de guerres menées au nom de la religion et conduites parfois au nom de la sécularisation elle-même. Comme nous le rappelle Thomas Piketty dans son Capital au XXIe siècle, la théorie selon laquelle, après une période initiale d'inégalité, la croissance économique capitaliste redistribuerait les richesses plus équitablement, était le produit des statistiques recueillies à un moment précis de l'histoire, la croissance économique de l'après-guerre, et non pas d'une loi naturelle et irréversible. Reconnaissons-le, nous sommes aujourd'hui désorientés. Lorsque, en 1989, à la chute du mur de Berlin, Francis Fukuyama proclamé la fin de l'histoire, ou plutôt les triomphes du libéralisme démocratique occidental, même ses critiques les plus acerbes ne pouvaient imaginer les événements et les scénarios qui ont cours aujourd'hui. Depuis, plutôt de converger, les débats entre historiens, politistes et philosophes deviennent chaque jour davantage plus polarisés et polarisants. Des grandes théories de l'histoire abondent, les plus un peu vieux jeu, certaines avec un peu plus d'imagination et de nouveautés. Ces brèves considérations sur notre présent ne visent pas uniquement à servir de simples décors rhétoriques à l'introduction de ma présentation. Durant les 45 minutes dont je dispose, je chercherai à démontrer combien les contradictions apparentes du monde actuel permet de poser des questions utiles pour étudier l'Ancien Régime et combien, de la même façon, l'Ancien Régime n'est pas un monde entièrement révolu, voire s'il ne contenait pas déjà en lui-même quelques-unes de ces contradictions du monde contemporain. J'ai divisé ma communication en trois parties, je pense que ça, il faut le faire en France. La première présente quelques considérations d'ordre général sur les choix du crédit comme objet d'étude. La deuxième explique pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur les relations de crédit entre juifs et chrétiens sous l'Ancien Régime. La troisième partie rapporte enfin quelques exemples concrets tirés d'un programme de recherche en cours qui, j'espère, pourra permettre d'ouvrir un débat et une discussion avec d'autres chercheurs. Alors, première partie, pourquoi les crédits ? Dans la tradition des sciences sociales occidentales, les crédits est l'une des traits classiques de la modernisation, définie comme l'érosion des sociétés traditionnelles dominées par les rapports personnels et l'émergence conjointe de l'individualisme, que l'on attribue à cette trajectoire une valeur positive ou négative. Le grand juriste britannique Henry Maine, au milieu du XIXe siècle, introduisit une formule devenue fameuse pour décrire ces processus historiques. Il parlait d'une trajectoire du statut au contrat. Maine décrit l'histoire en termes d'évolution progressive des sociétés de statut aux sociétés de contrat. Dans une société de statut, chaque individu est assigné à un groupe spécifique dès la naissance, avec peu de chances de changer sa propre condition au cours de son existence. Chaque groupe social occupe une position hiérarchique précise et à chaque groupe sont attribués des privilèges et des obligations spécifiques. À l'opposé, une société de contrat n'assigne pas des statuts, elle est volontariste. Chaque individu, ou tout au moins chaque homme adulte en plein possession de ses facultés mentales, est libre de sceller un contrat avec qui il le souhaite et de choisir parmi une multiplicité de contrats possibles dans un régime pluraliste. À l'époque où Henry Maine définissait son influente théorie, les femmes et les esclaves n'étaient pas égaux en droit dans la société des contrats. Cependant, sa théorie a été utilisée pour penser un progrès continu qui ferait de l'égalité devant la loi une conquête lente mais inexorable. Avec le temps, des nouveaux groupes, les pauvres, les femmes, les anciennes esclaves et les émigrés, pourraient peu à peu acquérir pleinement des droits de citoyenneté. Les crédits constituent les rouages fondamentaux de cette évolution qui embrasse toutes les sphères du monde social. Pour brosser en gros trait, l'histoire du crédit est généralement conçue comme celle d'une transition d'un système de contrôle informel à l'intérieur des communautés très hiérarchisées et à une échelle réduite à un marché anonyme et potentiellement sans limite au sein duquel la crédibilité individuelle est mesurée exclusivement en termes économiques, indépendamment d'autres attributs personnels. Cette trajectoire a simultanément des volets économiques, légaux et culturels. Dans les sociétés de statut, tous les individus n'ont pas le droit d'exercer certaines activités économiques. Par exemple, une femme ou un juif ne peuvent d'habitude faire partie d'une corporation de métiers. En outre, il existe des motifs rationnels qui explique que les crédits restent cantonnés parfois à des petits cercles. Les informations dont disposent les acteurs économiques sont souvent insuffisantes. Il est donc plus facile de faire confiance à des membres d'une même famille, d'un même quartier ou bien encore d'une même diaspora. Dans une société de contrats, en revanche, chaque individu possède théoriquement des droits similaires et il n'existe donc pas de barrières juridiques à l'entrée dans les marchés. Grâce à des nouvelles technologies, on parvient plus aisément à collecter des informations aussi bien sur les cours des monnaies que sur la réputation des acteurs qui opèrent sur les marchés. Lorsqu'on se rend à la banque pour demander un prêt, chacun d'entre nous compte sur le fait que le taux d'intérêt qui lui est attribué dérive exclusivement des modèles mathématiques pour calculer son taux de solvabilité et non pas des préjugés fondés sur des considérations extra-économiques. Du point de vue culturel, la transformation imaginée par Henry Maine semble pleinement réalisée. Les préjugés sont remplacés par des mesures objectives fondées sur des caractéristiques strictement économiques et individuelles. Naturellement, cette trajectoire décrit un processus idéal typique dont on ne trouve que des manifestations concrètes partielles et très récentes. Aux États-Unis, la première loi fédérale contre toute discrimination des races et des genres contre les marchés, sur les marchés du crédit remonte à 1974 durant la lutte pour les droits civiques. Jusqu'à cette date, une femme ne pouvait obtenir une carte de crédit qu'au nom de son mari et la majeure partie des Afro-Américains ne pouvait obtenir que des prêts sur gage. Mais la législation n'a pu corriger qu'en partie les inégalités. Aux discriminations légales se sont cependant substituées les disparités économiques. Par exemple, le fait que les femmes et les Afro-Américains ont des salaires plus bas ou bien vivent dans des quartiers où les habitations ont une valeur inférieure. Les inégalités structurelles coexistent donc avec des conditions formelles et juridiques d'égalité. Les effets sur les marchés du crédit sont dramatiques. Aux États-Unis, une personne avec un revenu fixe et une bonne maison paye moins de 4% par an pour un prêt hypothécaire, tandis qu'un chômeur peut aller jusqu'à payer 400% d'intérêt pour une avance en liquide. En d'autres termes, les inégalités des revenus et des richesses ont réintroduit, voire aggravé, les rôles de statut dans les démocraties occidentales les plus avancées, où, du point de vue formel, l'égalité en droit a pourtant atteint son plus haut niveau de développement. Ceci peut sembler paradoxal, mais les chercheurs en sciences sociales étudient les conséquences de ces nouvelles inégalités plus que les historiens ne s'interrogent sur la segmentation du marché du crédit privé sous l'Ancien Régime. Il faut remarquer que les études sur les crédits publics sous l'Ancien Régime sont plus nombreuses parce que ça, c'est un sujet intrinsèquement lié à la montée en puissance des appareils administratifs de l'État, thème classique de l'historiographie moderniste. Mis à part les difficultés liées à l'interprétation des documents marchands, des thèses opposées expliquent la pénurie des recherches empiriques sur les marchés du crédit privé sous l'Ancien Régime. D'un côté, les présupposés qu'il s'agit des sociétés fermées, dominées par des rapports hiérarchiques et fortement personnalisés. De l'autre, l'idée que l'expansion commerciale européenne amorcée à partir du XVe siècle s'accompagne non seulement de la force armée, mais aussi de l'esprit d'entreprise des marchands prompt à franchir tous les obstacles dans l'objectif d'un profit. Il y a du vrai dans ces deux hypothèses et cette apparente contradiction qui rend l'Ancien Régime particulièrement intéressant. La croissance économique du XVIe siècle, les nouvelles routes océaniques, la diffusion d'instruments de crédit sophistiqués comme les lettres d'échange et l'assurance maritime, l'amélioration des réseaux de transport et de communication ou encore le développement du droit maritime et commercial, tous ces facteurs ont pu contribuer à diminuer les risques liés aux prêts consentis à des étrangers. Ils ont permis de créer de nouveaux liens de crédit entre personnes issues de groupes divers du point de vue linguistique, ethnique et religieux. Dans le même temps, l'Europe d'Ancien Régime demeure une société corporative gouvernée par les principes juridiques du séparé et inégal, et un monde dans lequel le coût de l'information est tellement haut qu'il rend risqué les échanges entre membres appartenant à des groupes distincts. La Révolution française coïncide avec une autre révolution dans les transports et les moyens de communication. Cette coïncidence chronologique a eu des effets considérables sur les marchés du crédit. Au même moment que l'égalité des statuts légaux fut introduite, les bateaux à vapeur permirent pour la première fois d'ignorer la saisonnalité des moussons que jusqu'ici avaient dicté les temps et les routes de la navigation dans l'océan Indien. Se terminait ainsi cette longue durée brodélienne de la période pré-industrielle, durant laquelle, pendant des siècles, voire des millénaires, chaque activité humaine était sujette aux conditions environnementales et donc au caractère cyclique des saisons. Le télégraphe fut utilisé pour la première fois à des fins militaires pendant la guerre de Crimée et se diffusa ensuite lentement au sein des entreprises privées à cause des coûts élevés. Ce n'est que grâce au télégraphe, de la seconde moitié du XIXe siècle et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que les informations commencèrent à voyager plus rapidement que les êtres humains. Et ça, c'est un aspect qui n'est généralement pas sans étonner les plus jeunes. Sous l'Ancien Régime, hormis quelques expérimentations avec les pigeons voyageurs ou les phares, les informations ne pouvaient pas voyager sans un être humain, mais sans qu'un être humain ne les accompagne. Chaque lettre, même en plusieurs exemplaires, était chargée à bord d'un navire ou sur le dos d'un moulet. Elle voyageait avec des marins ou des caravaniers et comme eux, elle était exposée aux dangers de la piraterie et des intempéries. L'invention de l'imprimerie introduisait une certaine uniformité sur les marchés locaux, dans la mesure où il devient plus difficile de vendre une police d'assurance à un prix plus élevé que celui offert par un concurrent dans la même ville, ou bien d'altérer les cours de change de monnaie étrangère. Néanmoins, par certains aspects, l'invention de l'imprimerie produisait des effets modestes sur le commerce de longue distance. Des réseaux de communication manuscrits demeurent indispensables pour évaluer la fiabilité d'un agent potentiel ou bien pour récupérer des créances contractées dans une autre ville ou sur un autre continent. Outre les barrières imposées par les moyens de communication, le marché du crédit sous l'Ancien Régime était modelé par un système éthique et un mode d'administration de la justice radicalement différent des marchés modernes. Aujourd'hui, l'égalité et l'aspiration collective des démocraties pluralistes, malgré toutes leurs imperfections. Sous l'Ancien Régime, en revanche, on rêvait d'une société structurellement inégale, comme l'a qualifié Giovanni Levi. Ces rêves faisaient fonction de principes éthiques et administratifs. Mais créer une société parfaitement inégale n'est pas forcément plus simple qu'attendre parfaitement l'égalité dans nos démocraties. Les systèmes judiciaires d'Ancien Régime faisaient face à deux difficultés récurrentes. La première provenait du fait que chaque individu pouvait appartenir à plusieurs groupes dans cette société hiérarchisée et divisée. Un paysan était un homme, il disposait donc du droit, à la différence des femmes, d'héritier ou de témoigner. Toutefois, il était soumis à des niveaux de taxation différents des hommes qui résidaient en ville. Une femme noble jouissait d'exemptions fiscales réservées aux aristocrates, mais elle demeurait malgré tout dans une condition subordonnée, et ainsi de suite. Les problèmes auxquels devait faire face la justice d'Ancien Régime était celui de l'équilibre entre statut et contrat. La meilleure façon d'illustrer ce dilemme délicat est de convoquer un tableau bien connu aux particuliers de celles et ceux qui ont lu Patrick Boucheron. Voilà Ambrogio Lorenzetti, les effets de bons et de mauvais gouvernements à Sienne. Et dans le panneau consacré au bon gouvernement, nous voyons la sagesse qui inspire la justice. Et cette dernière tient dans ses mains les deux plateaux d'une balance. À gauche, c'est le plateau de la justice distributive, autrement dit, la justice inspirée du concept de statut qui postule une différence naturelle entre les groupes sociaux. Un noble qui avait des rapports sexuels avec une femme du peuple n'était pas puni, tandis que la femme se voyait condamnée. À droite, nous voyons le plateau de la justice commutative, qui correspond au concept de contrat, autrement dit, dans ce contexte, au concept de parité entre les sujets d'une même condition sociale. Des maîtres appartenant à une même corporation de métier pouvaient recevoir des salaires divers en fonction de leur productivité respective, mais ils avaient toujours droit à des bénéfices supérieurs à ceux des apprentis qui leur étaient subordonnés. Dans les fresques de Lorenzetti, la figure de la Concorde tient dans ses mains les fils de ces deux justices. Voilà les deux fils dans la main de la Concorde. Et elle confie les deux fils aux conseillers du gouvernement de la commune de Sienne, ces groupes de hommes ici, qui sont l'élite politique de la municipalité de Sienne, auxquels elle choisit le devoir de les combiner et de transformer l'allégorie en réalité pratique et quotidienne. Ça veut dire que la justice commutative et la justice distributive doivent être pratiquées en même temps. Les marchés du crédit privé sous l'Ancien Régime devaient donc équilibrer les deux principes des statuts et des contrats que Henry Maine conçoit comme opposés et successifs. Or, dans ce système-ci, comment définissait-on la crédibilité individuelle? Était-elle liée à une position sociale prédéfinie ou bien était-elle le fruit des négociations qui prenaient en compte les spécificités de chaque individu? Les stéréotypes favorisaient-ils ou empêchaient-ils les liens de crédit entre membres des divers groupes? Pour répondre à ces questions si importantes et pourtant négligées par les historiographies, il me semble utile d'analyser les relations de crédit entre juifs et chrétiens. Et ça revient à la deuxième partie. Loin de moi l'idée de rouvrir la vieille question de l'existence ou non d'un rapport spécifique des juifs au capitalisme. Comme vous l'avez compris, mon objectif est précisément à l'opposé. Je cherche à soumettre quelques postulats de l'histoire du capitalisme européen à un nouvel examen en faisant l'histoire des groupes marginaux. De la sorte, je cherche ainsi à démontrer que la modernité n'est pas nécessairement caractérisée par l'avènement des marchés homogènes qui se seraient substitués à des marchés segmentés. Les marchands d'Ancien Régime ont laissé d'abondantes traces sous la forme des lettres, des livres des comptes et des billets d'échange. Mais ces documents décrivent rarement les motivations qui ont présidé au choix de tel ou tel partenaire commercial. Parfois, l'on entrevoit dans la correspondance commerciale la conscience qu'il faut prendre en considération à la fois l'identité religieuse et les performances économiques d'un agent. Et voici un exemple, assez rare, je dois dire. Votre recommandation pour Vita Aguib, juif très riche, qui vous a été recommandée par une autre maison juive, il faut qu'il vienne de votre part pour que nous en fassions les cas. La prophétie s'accomplit bien chez nous, car c'est une nation que nous n'aimons pas, n'ayant pas voulu traiter ni faire aucun commerce avec eux. En autre terme, les correspondants lyonnais de la puissante Maison Roux déclarent haut et fort qu'en tant que bon catholique, Ils n'aiment pas les Juifs et n'ont pas pour habitude de faire affaire avec eux. Ils acceptent toutefois la recommandation d'un riche marchand juif de Livourne parce qu'ils ne peuvent pas refuser cette faveur à la maison Roux. Les profits l'emportent-ils toujours sur les préjugés religieux? C'est ce que pourraient nous laisser croire les œuvres des Lumières qui exaltent les rôles du cosmopolitisme commercial, antidote à l'obscurantisme religieux et où la place du marché devient le symbole d'un melting pot avant la lettre. À ce titre, Voltaire nous a laissé la formule la plus emblématique. Dans ses lettres philosophiques, il décrit la place marchande de Londres en ces termes. Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours, vous y voyez rassemblés les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, les Juifs, les Mahométans et les chrétiens traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ils ne donnent le nom d'infidèles que à ceux qui font banqueroute. C'est un passage très renommé. La puissance rhétorique de cet extrait l'a rendu fameux. En réalité, Voltaire reprenait avec sa plume particulièrement efficace une idée qui était dans l'air du temps. En même temps, Voltaire critiquait violemment les Juifs en général et ce que lui et beaucoup d'autres percevaient à tort comme leur position commerciale dominante. Ce qu'il décrivait n'était donc pas la réalité, mais un programme idéologique où les Juifs et les musulmans sont invoqués pour porter un coup à l'Église. Il est toutefois facile aujourd'hui de considérer cet extrait comme l'anticipation d'un libre marché pensé comme l'incarnation de l'universalisme le plus complet. Certains historiens des idées ont en effet souligné la connexion étroite entre le capitalisme et les sensibilités humanitaires, soutenant qu'ils se fondent tous deux sur la même prémisse, à savoir la capacité à respecter les engagements noués avec des étrangers. Mais cette lecture abstraite s'avère très problématique. Une gravure du milieu du XVIIe siècle, insérée dans un manuel de commerce, nous ramène à des considérations plus concrètes et très différentes. Ici, c'est le dictionnaire de commerce, l'un de plusieurs ouvrages de ce type de la milieu du XVIIIe siècle. Et ici, nous voyons une image très différente de celle que propose Voltaire. Et entre parenthèses, il faut expliquer que ce que Voltaire appelle la bourse de Londres n'était pas une bourse. Et ça, c'est aussi pour dire que c'était une représentation plutôt métaphorique. Ce qui s'appelait the Royal Exchange à Londres était le marché central des produits. Le lieu est le même, mais plutôt qu'un marché où se croisaient acheteurs et vendeurs sans distinction, les étals sont désignés en fonction des critères corporatifs. De la même façon, l'image relève aussi l'un des problèmes des sociétés d'Ancien Régime que nous avons évoqués. Les groupes listés obéissent à une pluralité de logiques de classification. Certains sont géographiques, Hambourg, Turquie, Jamaïque, Virginie, vous les voyez. D'autres sont des logiques professionnelles, les drapiers, les marchands de soie, etc. Et d'autres encore religieuses ou éthiques, les écossais, les arméniens et les juifs. Arrêtons désormais sur les juifs et sur les questions particulières qu'ils posent à ces doubles régimes des statuts et des contrats. Dans la dernière décennie du XVe siècle, les Juifs sont forcés à se convertir au catholicisme, d'abord en Espagne, puis au Portugal. Beaucoup d'entre eux laissent leur pays. La première vague migratoire eut comme principale destination l'Empire ottoman, mais à partir de la fin du XVIe siècle, certaines villes d'Europe occidentale, Venise, Livourne, Hambourg, Amsterdam et plus tard Londres, devient des destinations plus attractives en raison des opportunités qu'elles offrent. Dans ces villes fut mis en place un nouveau régime de tolérance. En tant que juifs, les nouveaux arrivants étaient sujets à des conditions restrictives et ils étaient exclus des offices. Toutefois, en tant que marchands, les séfarades reçurent des privilèges civils et économiques impensables au Moyen Âge. Il leur fut interdit de s'occuper des commerces de détail ou des prêts sur gage. Et pour encourager leur participation au commerce international, on leur garantit la pleine égalité contractuelle dans la sphère commerciale. Ils pouvaient également acquérir des titres d'État. La dette publique est une invention des cités italiennes du Moyen Âge, mais à cette époque, les Juifs ne pouvaient pas prendre part à cette forme de citoyenneté économique et publique. Les séfarades, à l'époque moderne, pouvaient donc désormais opérer librement sur certaines places européennes. Or, quand étaient-ils considérés comme marchands? Quand étaient-ils traités comme juifs? Ce sont là les questions centrales qui justifient, à mes yeux, de conduire des nouvelles recherches afin de mesurer la part de statut et la part de contrat dans les liens de crédit sous l'Ancien Régime. La situation en France était un peu diverse, en ceci qu'en 1550, la couronne permit aux marchands séfarades de s'établir à Bordeaux et dans les environs. Or, jusqu'à 1723, la monarchie française ne les autorisa pas à pratiquer ouvertement le judaïsme. Pendant quasiment deux siècles, le sud-ouest fut l'unique région d'Europe, en dehors de la péninsule ibérique, où le crypto-judaïsme fut indirectement toléré. Partout, l'acculturation des juifs séfarades atteint des niveaux jamais atteints auparavant. Deux images peuvent rendre palpable la nature de ces processus. À droite, vous voyez le portrait d'un riche marchand du ghetto de Venise en 1687, qui ne diffère en rien de celui d'un riche marchand catholique vénitien à la même époque, sauf qu'il ne peut pas sortir du ghetto après que le soleil se couche. À gauche, un contrat de mariage scellé à Bordeaux en 1760, 37 ans après que les Juifs du Sud-Ouest ont obtenu l'autorisation de suivre leur propre rite. Le texte est écrit en hébreu et en araméen, comme le prescrit la loi juive, mais tous les signataires, hormis un seul, signent un caractère romain plutôt qu'en hébreu. Les Français et l'espagnol sont la langue qu'ils pratiquent tous les jours. Dans toutes ces villes, Venise, Livourne, Bordeaux, Amsterdam, les Juifs mènent leurs propres affaires et en ne se fiant pas seulement entre d'autres Juifs, mais en entrant constamment dans des rapports de crédit avec les non-juifs. Sur la base de quels critères les juifs et les chrétiens choisissent-ils de coopérer? Parler génériquement des juifs et des chrétiens peut sembler réducteur. Il existe évidemment des juifs riches et des juifs pauvres, de même que des juifs appartenant à des diverses traditions, séfarades, askénazes, ottomans, des juifs qui parlent ladino, yiddish, italien ou flamand. Il était de la même façon impossible de parler des chrétiens. Les marchands hollandais calvinistes ou les grecs sujets de l'Empire vénitien ne pouvaient être considérés comme un même ensemble. Il faudra bien mesurer l'importance de ces divisions confessionnelles. D'ici là, il suffit de dire qu'il n'est pas totalement erroné de parler des juifs et des chrétiens en général, parce que toutes les alliances matrimoniales entre juifs et chrétiens étaient interdites, à moins que l'un des deux époux se convertisse. Étant donné l'importance des réseaux de parentèle dans la circulation du crédit dans l'Ancien Régime, la ligne de séparation entre juifs et chrétiens fonctionne donc comme l'un des critères les plus efficaces pour mesurer le degré d'impersonnalité des marchés du crédit à cette époque. Comment mesurer ce degré d'impersonnalité? Alors, dans la dernière partie de cette communication, je présenterai les premiers résultats d'une recherche en cours et je procéderai assez schématiquement, traitant séparément trois sphères pourtant imbriquées, les aspects juridiques, économiques et culturels des relations de crédit entre juifs et chrétiens. Bien évidemment, ces relations existaient au Moyen-Âge, mais dans la majeure partie des cas, au Moyen-Âge, il s'agissait des prêts sur gage. La principale nouveauté du crédit d'Ancien Régime était le crédit commercial. C'est lui que le dictionnaire d'Antoine Furetière, à la fin du XVIIe siècle, définissait comme un prêt mutuel qui s'est fait d'argent et de marchandises sur la réputation de la probité et de la solvabilité d'un négociant. C'était la signature du négociant qui offrait la seule garantie, pas de gage. Qu'est-ce qui comptait le plus dans la réputation d'un marchand séfarade? Ses actions et son parcours de marchand, ou bien les perceptions plus ou moins positives que l'on se faisait de sa communauté? Comment vérifier la part respective de la réputation individuelle et de la réputation collective? Pour commencer, il faut observer que les changements introduits sur les plans légaux à partir de la fin du XVIe siècle, à la fois du côté des politiques de tolérance chrétienne et du côté de la doctrine et de la pratique de la loi juive. Ces deux mutations facilitèrent l'intégration des marchands séfarades dans les sociétés locales. Quand les réfugiés ibériques s'établirent dans les capitales d'Europe occidentale, les corporations des grands marchands du commerce international avaient perdu leur force. La diffusion du mot négociant en témoigne. Celui-ci désigne, sous l'Ancien Régime, les marchands en gros qui commercent souvent sans appartenir à une quelconque corporation. Depuis des siècles, les documents d'entreprise signés par les marchands n'avaient pas besoin du sceau notarial. Les lettres commerciales, les livres des comptes, les polices d'assurance, les lettres d'échange et autres pouvaient être présentées devant un tribunal comme autant d'éléments de preuve. Ce double changement dans la sphère juridique ouvrait de nouvelles possibilités pour les marchands juifs. Les baptêmes restaient requis pour entrer dans presque toutes les corporations, mais une fois que les corporations cessèrent d'avoir un rôle déterminant dans le commerce international, les Juifs se trouvaient également en mesure de présenter devant les tribunaux chrétiens des documents qu'ils avaient signés et se voir reconnaître le même pouvoir contractuel. Un dernier élément décisif sur le plan légal fut l'affirmation d'un régime de responsabilité individuelle pour les marchands juifs. Au Moyen Âge, les autorités chrétiennes avaient l'habitude de condamner une communauté juive tout entière pour les crimes commis par un seul de ses membres. Dans les nouvelles communautés séfarades fondées à la fin du XVIe siècle, la responsabilité fiscale demeurait généralement une charge corporative, mais en ce qui concerne le commerce privé, chaque marchand était responsable de ses propres dettes. Naturellement, ces grands changements eurent des tonalités différentes en fonction des couleurs locales. On l'observe en comparant, par exemple, Livourne et Amsterdam, les deux capitales du monde séfarade en Europe, Livourne dans l'Italie catholique, Amsterdam dans l'Europe protestante. Il faut rappeler que Amsterdam faisait figure de véritable exception dans les systèmes juridiques et économiques d'Ancien Régime. Pendant la guerre avec les Pays-Bas espagnols, Amsterdam mit au point de nouvelles institutions dans le but d'attirer des marchands du monde entier. Les autorités municipales éliminèrent presque toutes les barrières corporatives qui, ailleurs, tendaient à favoriser les marchands locaux plutôt que les marchands étrangers et en particulier ceux qui appartenaient à la religion dominante. Quiconque arrivait à Amsterdam avec des moyens suffisants pouvait se lancer dans les affaires. En échange de cette ouverture inédite, Les autorités municipales promirent à tous un traitement égal et elles interdirent aux minorités et à un groupe étranger quelconque de former des tribunaux consulaires comme c'était en revanche la tradition dans les restes du continent. Cette architecture institutionnelle, complètement inhabituelle, fut l'une des premières manifestations des sociétés de contrat dans l'Europe d'Ancien Régime. En théorie, nous devrions donc rencontrer à Amsterdam la présence d'un marché du crédit hautement impersonnel, mais nous ne disposons pas aujourd'hui des recherches qui démontrent l'efficacité de ce système, ou tout au moins sa compatibilité avec les réseaux informels de contrôle et les formes d'adjudication privée qui perdurèrent inévitablement. À Livourne, en revanche, l'édifice institutionnel conservait une structure fortement corporative. On concéda aux Juifs une très grande autonomie juridictionnelle. Chaque litige entre Juifs était d'abord jugé par un membre laïque de la communauté, qui était d'ordinaire également marchand. Il faut souligner que les autorités rabbiniques furent exclues de l'administration de la justice commerciale dans toutes les communautés séfarades d'Europe. Ces sentences à Livourne étaient ensuite jugées en appel par un juge diplômé en droit au sein du tribunal du gouverneur de la ville, devant lequel les Juifs n'étaient formellement pas discriminés. L'une des questions à laquelle il faut tâcher de répondre est de savoir si ces divers édifices institutionnels à Amsterdam et à Livourne créèrent des modèles divers de circulation de crédit. Pour le moment, contentons-nous de constater que là où les marchands séfarades furent accueillis à partir de la fin du XVIe siècle, les privilèges émis expressément pour eux et les mécanismes légaux développés indépendamment de la présence juive facilitèrent les relations de crédit entre les chrétiens, et c'est malgré les maintiens de l'interdiction de mariage entre les deux groupes. Cet interdit, à son tour, limitait les canaux de contrôle social dont disposaient le débiteur et le créancier chrétien et juif lorsqu'ils noyaient entre eux des contrats. Mais il ne suffit pas de regarder seulement à les règles du jeu. Il faut également analyser la façon dont les joueurs les interprètent et les pratiquent. Le second but de mon programme de recherche consiste à recueillir le plus de données possibles sur les maisons de commerce séfarades et leurs créanciers chrétiens. Jusqu'alors, les historiens se sont surtout occupés de documenter les secteurs d'activité économique des Juifs. Ils n'ont cependant pas étudié la façon dont les entreprises juives et les entreprises chrétiennes différaient, si c'était bien le cas, les unes des autres. Ainsi, nous savons que dans certains secteurs de la finance et du commerce, les Juifs étaient surreprésentés par rapport à leur véritable poids démographique. Mais nous ne savons pas s'ils adoptaient des stratégies différentes pour financer leurs entreprises ou pour décider à qui les emprunter de l'argent. Présentons quelques exemples concrets. À Livourne, il n'existait aucune interdiction légale à la formation des sociétés en commandite entre juifs et non-juifs. Dans une société en commandite, les investisseurs passifs recevaient un pourcentage sur les profits de la compagnie, mais en cas de perte ou de banqueroute, ils ne perdaient jamais plus que ce qu'ils avaient investi. La théorie économique institutionnaliste pourrait laisser penser que cette forme d'entreprise qui protégeait les investisseurs passifs des risques excessifs était préférable aux sociétés au sein desquelles tous les associés avaient les mêmes responsabilités envers les créanciers. En réalité, parmi les 5000 sociétés en commandite enregistrées en Toscane du milieu du XVe à la fin du XVIIIe siècle, seules trois d'entre elles, de modestes valeurs et toutes datant de la fin du XVIIIe siècle, sont mixtes dans les 100 où des chrétiens investissent dans des compagnies gérées par des juifs. Ce constat est surprenant étant donné que les systèmes juridiques autorisaient ce type d'association. En dépit de ceux qui postulent la théorie économique, nous devons conclure que la garantie juridique des droits de propriété ne parvint pas à dissoudre les hiérarchies préexistantes ni à stimuler fortement l'émergence des comportements de type individualiste. Or, si les Juifs et les chrétiens ne formaient pas des sociétés en commandite à Livourne, ils scellaient entre eux d'autres types de contrats, des assurances maritimes, des lettres d'échange, des contrats d'agence, etc. En somme, pour comprendre les logiques du crédit, il ne suffit pas de vérifier l'existence des liens de crédit entre Juifs et chrétiens, il faut lancer des recherches plus approfondies pour comprendre les risques auxquels les membres de deux groupes s'exposaient, pour comprendre les termes contractuels et les accords qu'ils choisissaient en fonction des objectifs à atteindre et de l'identité des partenaires commerciaux. De la sorte, on pourrait ainsi rapprocher l'histoire économique et l'histoire culturelle après des décennies de routes divergentes. Les nouveaux des risques pris par les membres de groupes divers dans une société où les informations fiables n'étaient pas facilement accessibles et dans laquelle des divisions de statut continuaient d'exister, aident à mesurer les rapprochements ou la distance sociale et culturelle entre ces groupes. Et l'on peut ainsi envisager sous un nouvel angle la question tant débattue de l'identité. Des images négatives des Juifs, souvent représentés comme des spéculateurs avides qui s'enrichissaient sur le dos des chrétiens ingénus, étaient omniprésentes dans les villes mêmes où les marchands juifs en chair et en os faisaient affaire avec une grande variété de personnes. Ces représentations infamantes devenaient de plus en plus violentes et nombreuses au lendemain des crises financières. Face à la circulation des caricatures, des satires, des parodies en tout genre, les communautés juives se préoccupaient de protéger l'image de ses membres en posant une discipline collective dans le but souvent vain de lutter contre les préjugés. Ainsi, après l'affrontement du marché des actions à Amsterdam en 1688, les chefs de la communauté interdirent la vente des actions aux abords de la synagogue, dans l'espoir de ne pas attirer l'attention de passants. Dans un marché du crédit commercial fondé sur la réputation, quelles étaient les retombées des préjugés de longue date et de la propagande qui les véhiculait? Les marchands calvinistes se laissaient-ils vraiment dissuader de faire affaire avec des Juifs parce qu'ils avaient tenu entre les mains, un feuillet montrant un complot juif pour réduire en fumée les fortunes de pauvres actionnaires. Ici, c'est une gravure après la grande spéculation de 1720. C'est une grande bulle spéculative qui a détruit beaucoup de richesses privées. Or, si ces images n'avaient guère d'effet, devons-nous en conclure que les marchands calvinistes s'étaient débarrassés de tout préjugé? Si nous ne sommes pas encore en mesure de répondre à ces questions, c'est parce que nous ne les avons pas encore posées pour ouvrir de nouveaux chantiers de recherche. J'en arrive à ma conclusion. Les mots crédit, du verbe latin credere, embrassent presque toutes les dimensions du social, des liens financiers à la fois religieuses en passant par la politique. Cette polysémie fait du crédit un sujet historique à la fois insaisissable et très stimulant. Analyser les liens de crédit entre juifs et chrétiens sous l'Ancien Régime suppose de plonger au cœur des problèmes d'actualité qui ont jusqu'ici davantage donné lieu à des prises de position idéologiques qu'à des recherches empiriques. Prenons l'exemple du premier chapitre du traité théologico-politique dans lequel Spinoza décrit sa ville, Amsterdam, en ces termes. Au sein de cette florissante république, de cette ville éminente, tous les hommes de toute nation et de toute secte vivent entre eux dans la concorde la plus parfaite. Et pour confier ou non leurs biens à quelque citoyen, ils ne s'informent que d'une chose. Est-il riche ou pauvre, fourbe ou de bonne foi? Quant aux différentes religions et aux différentes sectes, que leur importe? Et de même, devant les tribunaux, le juge ne tient en compte des croyances religieuses pour l'acquittement ou la condamnation d'un accusé. Les économistes institutionnalistes peuvent y voir là la confirmation de leur théorie. Certains spécialistes des théories politiques ont également fait de cet extrait l'étendard du républicanisme commercial, une sorte de proto-libéralisme qui conjugue liberté religieuse et laissez-faire économique. Des spécialistes de littérature ont en revanche étudié la postérité de ces motifs qui culminent avec la description de la Bourse de Londres par Voltaire et souligné son caractère purement allégorique. Je voudrais proposer ici une clé de lecture supplémentaire inspirée de ce que j'ai présenté devant vous. Dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, où il n'existait pas de taux de solvabilité individuelle, comment un marchand faisait-il pour déterminer qui était riche ou pauvre, qui était fourbe ou de bonne foi? À travers quels canaux d'information les réputations étaient-ils construites? Et si les juges étaient aussi impartiaux que ceux que Spinoza décrivait, les liens sociaux et les a priori culturels cessèrent-ils d'influer sur les liens de crédit entre les familles des marchands qui ne se mariaient pas? En se posant ces questions, nous pouvons comprendre bien plus profondément les logiques auxquelles répondaient les sociétés d'Ancien Régime et, tout à la fois, en démontrer leur pleine actualité. Je vous remercie.
C'est nous, évidemment, qui vous remercions pour avoir si bien rempli, au fond, le programme que vous vous étiez donné en présentant la société d'Ancien Régime et la possibilité d'en faire l'histoire comme une manière d'ouvrir le présent à ce qui, dans le passé, y résiste et, d'une certaine manière, tient encore lieu de notre propre actualité, puisque c'est sur ce diagnostic du présent que vous terminez votre présentation. Évidemment, il n'y a pas que la fin de l'histoire qui a fait long feu, mais aussi, d'une certaine manière, cet espoir ou ce projet des Lumières, si bien décrit par Voltaire, des profits qui mettront à bas les préjugés. Et on voit bien qu'il y a eu encore, enfin, il a fallu du temps au XXe siècle pour comprendre que, d'une certaine manière, le monde ne trouvait pas sa résolution dans justement une libéralisation générale des échanges et qu'on pouvait avoir les profits et les préjugés. Et que, d'une certaine manière, d'où d'ailleurs cette ressource spinoziste, dont on voit bien aujourd'hui que dans la pensée contemporaine, elle se réactive, précisément parce que ça permet de considérer comment une société des affects peut tenir lieu de cette concorde dont on a bien vu qu'elle tressait en une seule corde, justement, ces deux fils du statut et du contrat.